Économie et finances, une chronique de Jean-Louis Chambon sur Canal Académie.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour aujourd'hui évoquer la dernière crispation estivale, les bonus et les malus. Vous avez aimé la controverse sur les bonus des traders de la BNP, alors vous allez sans doute adorer les malus qui apparaissent dans la société française. C'est un grand classique. En période estivale, lorsque l'actualité économique sommeille, de même que l'activité sociale, et avec elle la classe dirigeante, tout événement, même microscopique, peut devenir monumental. Et avec un doigt de manipulation plus ou moins consciente de l'information, alors on peut faire prospérer les crispations nationales dont le pays a le secret. Rappelez-vous, revenons un petit peu en arrière et reprenons ce feuilleton estival du milliard d'euros des bonus de la BNP. Tout a commencé avec la révélation par un journal et un syndicat dont on ne peut méconnaître l'aversion aux thèses libérales d'un prétendu trésor d'un milliard d'euros mis en réserve par la BNP dans ses comptes semestriels pour ses traders, en réalité d'ailleurs pour ses 17 000 salariés de la banque de financement. Reprise aussitôt sur l'ensemble des médias, accompagnée de forums en donnant la parole à l'opinion, cette information a été immédiatement retransmise au plan national sans avoir été préalablement passée au crible du contradictoire. Elle a suscité une émotion telle qu'elle devenait immédiatement une affaire d'État. Soupçonnée d'irresponsabilité et d'incohérence, convoquée de toute urgence, les dirigeants bancaires étaient publiquement rappelés à leurs devoirs et à leurs engagements. Toutefois, quelques explications plus tard, les Fouquier-Tinville devaient piteusement reconnaître que les pratiques en question, je cite, « se révélaient conformes aux engagements pris et très en avance par rapport aux recommandations du G20 ». D'ailleurs, un examen attentif des chiffres montrait en effet que 20% du milliard en question étaient en réalité des charges sociales et que pour 50%, les destinataires étaient en réalité des non-résidents français, tout en sachant que ces sommes étaient ensuite affectées de l'impôt. Donc le dossier menacé, comme disait un président, de faire rapidement pchit. C'était sans compter sur une nouvelle présomption, celle-là de frilosité des banques dans le financement de l'économie, ce qui débouchait sur une mise en demeure et justifiait l'ire présidentielle. Les banques devaient revoir sur le champ leurs pratiques en matière d'octroi de bonus avec une triple orientation. Premièrement, l'étalement du paiement, le mixage des modalités de paiement en introduisant des paiements en action, c'est-à-dire donc des paiements risqués, et enfin l'instauration d'un système de malus permettant la rétroactivité et éventuellement le non-versement de la partie différée des bonus en cas de retournement du résultat escompté. La France venait de donner au monde une première leçon de moralisation de l'économie et de la finance, tout en convenant, mais à voce, que cette initiative devrait être suivie au plan international pour ne pas pénaliser la place financière et les banques françaises, et entraîner, ce qui est le risque maximum, un exode massif des traders vers les concurrents internationaux. Et il serait stupide de penser que ce risque est faible. Le rendez-vous prochain de septembre à Pittsburgh du G20 devrait d'ailleurs donner une première indication sur le réalisme et la capacité d'entraînement de cette initiative. Mais d'ores et déjà, quelques réflexions s'imposent. Sur le fond du sujet, il est clair que les pratiques en vigueur pour les rémunérations variables des traders, et aussi d'ailleurs des grands dirigeants, nécessitent une réforme. Elles choquent l'opinion et surtout, en plus, elles ne sont pas cohérentes. L'objectif est donc d'adosser les primes en valeur absolue et en modalité de paiement, aux performances réelles et durables qui les justifieraient. L'étalement et le versement en risque sous forme d'action sont bien entendu des pistes très pertinentes. Mais ne nous y trompons pas, cette régulation est déjà en cours auprès de différentes autorités financières internationales, avec des philosophies qui sont d'ailleurs extrêmement voisines. Outre l'encadrement général du G20, en Allemagne, la BaFin a instauré des règles d'étalement et de remboursement éventuel des sommes perçues. Au Royaume-Uni, la FSA, Financial Service Authority, a prévu que 2/3 des sommes seraient versées que sur 3 ans. Enfin, aux USA, ce sont les actionnaires qui prennent la main et qui auront un droit de regard, mais seulement dans les entreprises aidées par l'État, sur les avantages et compensations des dirigeants. En France, déjà, Le code MEDEF-AFEP sur les rémunérations est très largement suivi par les grandes entreprises, tandis que la charte de déontologie des dirigeants salariés, élaborée juste avant l'été par la Fédération nationale des cadres dirigeants FNCD, a élargi les principes de comportement et d'action en donnant un véritable code général de bonne conduite des dirigeants, ce qui reste une très grande première européenne et qui répond d'une façon beaucoup plus complète aux aspirations très larges de l'opinion, et notamment en matière d'exemplarité. Qu'on se rassure donc, les mesures techniques de régulation des bonus sont largement connues et seront plus ou moins vite volontairement appliquées. Mais penser que ces dispositions réglementaires seront suffisantes pour apporter une réponse suffisante au défi de morale qui est devant nous dans l'ordre économique et financier est une utopie. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre les déclarations d'une des grandes figures de la City, grand temple mondial de la finance, par Lord Turner, devenu le gendarme de la finance britannique en présidant la FSA. Je le cite. « La question des bonus n'est qu'une diversion populiste. Un système de rémunération parfaitement contrôlé au niveau international n'aurait pas empêché la crise financière. Les causes de la crise sont plus graves. Elles tiennent au fait que les régulateurs et les institutions financières ont suivi un credo qui s'est révélé faux, à savoir que les marchés ont toujours raison et qu'il fallait éviter de les réglementer. » Il ajoute « Si vous voulez faire cesser les rémunérations excessives dans un système hypertrophié, comme c'est le cas, il faut réduire la taille du secteur ou appliquer des taxes spéciales sur les profits. » D'ailleurs, on commence à voir se profiler un nouveau projet d'une taxe Tobin qui permettrait d'instituer une taxation sur les mouvements de change. Aussi, la France est parfaitement légitime dans sa volonté d'apporter une forte contribution dans la mondialisation de l'ordre économique et financier mondial. Son histoire la lui commande et c'est son honneur. Aussi, cette volonté ambitieuse mérite un soutien inconditionnel et le respect. Il ne suffit pas d'espérer pour entreprendre, rappelait Napoléon. Mais le volontarisme économique doit s'accompagner de la lucidité suffisante pour inscrire ces nobles actions dans la patience et la durée et attendre que, une fois réglée la mécanique des bonus, on puisse arriver à une prise de conscience. Reste toujours pendante la grande question du niveau des rémunérations à valeur absolue, et c'est-à-dire savoir à quelle hauteur est acceptable des rémunérations variables, c'est-à-dire donc un équilibre très fragile entre l'efficacité économique, c'est toute la théorie de l'agence, à savoir qui permet de rapprocher les intérêts du dirigeant de celles des actionnaires, et le niveau jugé indécent, exorbitant ou scandaleux, perçu par l'opinion. C'est un grand équilibre, mais comme nous l'avait enseigné préalablement de nombreux philosophes, les grandes questions sont précisément celles qui n'ont pas de réponse. D'autant qu'on ne voit pas très bien en quoi les salaires des grands patrons et des traders seraient plus excessifs, objectivement, que eu égard notamment à leurs responsabilités multiples au plan économie et sociale, sont des employeurs de plusieurs centaines de milliers de salariés, seraient donc plus excessifs que ceux des sportifs, des footballeurs, des tennismen, ou bien encore des dirigeants de clubs de foot ou de salles de jeu. En dehors du dogmatisme de la vieille tradition française qui permet plutôt de privilégier l'égalitarisme au mérite, on reste sans réponse. Fallait-il, en outre, laisser prospérer le procès en sorcellerie des banques françaises ? Comment, comme le rappelait récemment Georges Pauget, qui est, comme vous le savez, le past président de la Fédération française des banques, il le rappelait avec humour et un peu de dérision sur une grande antenne nationale. Au Moyen-Âge, on brûlait les banquiers. Aujourd'hui, on ne fait que les convoquer, ce qui est un peu moins grave. Rappelons toutefois qu'il n'existe pas de pays prospère sans un système bancaire fort et profitable. Les banques sont le système sanguin de l'économie. S'il va mal, toute l'économie va mal. Le financement de l'économie suppose de disposer d'une capacité à amortir les chocs et les pertes lorsqu'un emprunteur est défaillant. Pour cela, il faut des fonds propres, il faut aussi des actionnaires qui acceptent d'assumer les pertes pendant un long moment, et donc des profits. Faut-il rappeler que les banques françaises sont des employeurs importants, dynamiques ? Plus de 20 000 jeunes seront recruté en 2010 par le système bancaire français. Et ce sont, par ailleurs, des contribuables parfaitement fidèles et qui acquittent leur taxation sous formes diverses et variées de l'impôt, des taxes, etc. Le fait d'avoir reçu des aides conjoncturelles dans un contexte de crise mondiale, dont elles apparaissent en définitive beaucoup plus les victimes collatérales que les acteurs, et par ailleurs le fait qu'elles ressortent un peu plus fortes que leurs concurrentes anglo-saxonnes de cette crise, mérite-t-il de les voir traîner au banc de l'infamie, alors même que l'État n'est que dans ses missions lorsqu'il soutient un secteur en difficulté? L'automobile, l'agriculture, la sidérurgie, la presse en sont les illustrations précédentes. Faut-il avoir honte de la bonne santé relative de nos grandes banques ou s'en réjouir alors qu'elles sortent, comme je le disais il y a un instant, plutôt regardies de cette situation de crise? On doit à la vérité de dire que les banques françaises, par ailleurs, n'ont pas reçu de dons publics, mais sous formes diverses, des prêts remboursables, et que le contribuable est très loin d'en être lésé, puisque ces prêts publics sont d'une rentabilité à ce point élevée qu'il n'y a pas d'exemple historique où l'État a soutenu un secteur en difficulté avec une rentabilité aussi élevée à partir du moment où le secteur rembourse, ce qui sera le cas pour les banques françaises compte tenu du niveau de leur solvabilité. Quant à la forme, elle reste cruellement à désirer. Le respect d'autrui, quelque part bafoué, devrait rester un principe fondamental de la déontologie de la classe dirigeante. Il est vrai que dans une société où tout n'est que communication, les symboles sont forts, mais ils n'autorisent pas tout. Traités comme des galopins de grands patrons qui n'ont en rien failli et qui sont en charge de milliers de salariés, dont nombre d'entre eux d'ailleurs sont salariés actionnaires et très attachés à leur établissement. Les soumettre à la vindicte populaire et médiatique, et sans doute politiquement confortable, mais dramatiquement contre-productif pour l'avenir. Un tel discrédit et une altération aussi durable de l'image de nos champions nationaux ne peut qu'être le signe d'une volonté de renationalisation, plus ou moins rampante, dont on connaît pourtant les tragiques expériences qu'ont fait le Crédit Lyonnais. Curieusement, on ne tient pas compte, ou en tout cas on n'a pas retenu de demander l'avis des actionnaires qui, en l'état actuel juridique et de droit, sont tout de même les premiers en droit d'arbitrer ce débat. Quant au malus et à la rétroactivité, on peut aussi regarder de plus près ceux qui peuvent aussi toucher la classe dirigeante et la société civile. Premier point, premier malus, cette facilité à identifier des boucs émissaires à chaque crise. Hier, c'était les patrons voyous, les actionnaires aussi voyous. Aujourd'hui, ce sont les banquiers qui en font les frais. Ce n'est d'ailleurs pas très étonnant, car culturellement, historiquement, les Français détestent l'argent et le pouvoir qui leur est attaché. Ne s'agit-il pas en réalité d'une forme inconsciente de lâcheté collective visant à s'exonérer de la douleur d'un diagnostic sans concession sur le partage des responsabilités, sur le laisser-faire intéressé des États dans les dérives de la finance, sur l'état réel de la France et sur, en fait, la pertinence de ces modèles sur sa compétitivité? De telles pratiques, en réalité, retardent d'autant la nécessaire prise de conscience qui peut permettre d'espérer un sursaut national et d'enrayer le déclin relatif du pays. Autre malus, cette tentation de suivisme de l'opinion qui se fait de plus en plus jour dans la classe dirigeante. Les médias ont ouvert la voie, la classe dirigeante s'y est engouffrée, abandonnant au passage une large part de ses convictions et surtout de ses orientations, et pire, dans la mise en œuvre de ces orientations, à la réactivité, à la versalité et à l'émotion de l'opinion. Certes, la démocratie participative est à la mode et correspond sans doute à des aspirations de fond, mais doit-on laisser pour autant s'installer une nouvelle forme de tyrannie, celle de l'opinion? Les tyrannies démocratiques sont-elles meilleures que celles du totalitarisme? Le tribunal de l'opinion est en passe de devenir une source de droit supérieure, comme disent les juristes, supérieure à celle du législateur, qui autorise, en tout cas auprès des intellectuels et certaines classes politiques, par exemple les séquestrations illégitimes et illégales de dirigeants ou les pratiques de chantage dans le dialogue social. aussi pour répondre au défi moral qu'exige d'elle l'opinion, la classe dirigeante devra savoir à la fois résister à la tentation de populisme auquel l'invitent de plus en plus les différentes formes de démocratie participative et aussi aux contraintes de l'immédiateté d'une société surmédiatisée qui privilégie la suractivité, la surréaction à la réflexion. L'exemplarité qu'appelle de ses voeux l'opinion ne commence-t-elle pas par la capacité à faire respecter l'état de droit, les contrats, les conventions et la loi, et d'apaiser le plus possible la société et ses crises-passions. La menace, c'est l'anarchie et la perte de confiance dans les élites. La confiance est cette première condition de la croissance que tout le monde appelle de ses voeux. Et le retour de la confiance, et en particulier dans les élites, nécessite des changements de comportement et d'action qui dépassent très largement le champ des rémunérations et à bien des égards qui constituent la partie invisible de l'iceberg de la déontologie. Je veux parler de la loyauté, du courage, de l'exemplarité et du respect d'autrui. Aussi, le défi moral ne fait que commencer. Bonus et malus sont encore devant nous.